Voilà, donc on est dans la suite de notre chapitre 17 et on va donc décortiquer le discours, enfin j'espère qu'on y arrivera, le discours de l'apôtre Paul à l'Aréopage dans la ville d'Athènes. Alors vous vous souvenez, parce qu'on a quand même un break assez important, qu'après la fuite, je dirais, forcée et organisée de Thessalonique, Paul se retrouve donc seul à Athènes. Et là, il est face à l'idolâtrie ambiante généralisée dans cette ville. Et il décide alors de commencer sans attendre une évangélisation adaptée en milieu païen dans lequel il évolue maintenant. Alors rappelons-nous aussi que ses compagnons ne sont pas avec lui. Donc aucun des autres acteurs du petit groupe dans lequel ils étaient n'est disponible à ce moment-là. Voilà, donc on peut peut-être lire le texte, donc chapitre 17, à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. C'est un peu long, mais ça vaut sans doute la peine.
Ils le prirent alors avec eux, le menèrent devant le conseil de l'Aréopage et lui dirent : pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Tu nous fais entendre des choses étranges. Et nous aimerions bien savoir ce qu'elle signifie. Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui vivaient parmi eux, passaient leur temps uniquement à dire ou écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit alors : Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, tandis que je parcourais votre ville et regardais vos monuments sacrés, j'ai trouvé même un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit. Car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé, nous sommes aussi ses enfants. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre produite par l'art de l'imagination de l'homme. Or Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui et les autres dirent : nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait Denis, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres encore.
Voilà, alors peut-être posons-nous la première question qui était dans notre petit questionnaire sur que désigne ce terme difficile à lire ou facile à déformer, enfin c'est selon.
C'est plutôt ça, mais...
On discute. Au départ, ce chef-là, c'est une colline consacrée au dieu Arès. C'est pour ça, Aréopage.
Oui. Oui. Arès Pagos. La colline d'Arès.
C'est qui ça,
Arès ? C'est le dieu Mars.
Ça correspond au dieu Mars, le dieu de la guerre.
De la guerre.
Dieu de la guerre, et c'est sur cette colline que. La Grèce antique avait fondé le premier tribunal. Ou conseil juridique des Grecs et de l'Attique en particulier, de tout ce qui est de la région d'Athènes. Voilà, mais on verra, on y retournera dans un moment. Et donc, ce n'est pas sur la colline même, hein, mais disons que l'agora se trouve à quelques mètres en dessous du sommet de la colline, sur une place assez grande où on pouvait mettre pas mal de gens. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais à l'époque, l'époque moderne, je veux dire, puisque c'est l'époque de Paul, il ne s'agit plus ni d'un conseil politique, c'est-à-dire sur les conseillers du roi et les juges, etc. Il s'agit essentiellement d'un tribunal civil, jugeant de la moralité de certaines choses, etc. Ils n'ont quasi pas de pouvoir. En fait, ceux qui ont le pouvoir, c'est les intellectuels, c'est la philosophie en particulier, et eux administraient la justice bien gentiment. Voilà. Un peu la police des mœurs, mais en soft, quoi, à la grecque, hein, de l'époque, qui était quand même très, très laxiste par rapport au tout début de la Grèce. Et c'est un conseil, alors on ne sait pas de combien de membres, parce que dans la Grèce antique, il y avait environ une centaine de membres, 115 membres, tous des élites du peuple. Et on pense qu'à cette époque-là, il y en avait peut-être une dizaine à tout casser, et peut-être des gens qui travaillaient pour eux, mais enfin voilà. Donc le conseil n'est peut-être pas immense en tant que tel, composé que d'hommes, évidemment, puisqu'on est quand même au 1er siècle. Bien, malgré l'évolution de la Grèce de l'époque, les femmes n'avaient pas tout à fait leur place dans la partie politique, la vie de la ville, quoi. Voilà, donc c'est devant ce conseil qu'il est invité. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez lu, mais c'est vrai que les expressions qu'on avait vues auparavant sur « il mire la main sur », c'était plutôt « manu militari ». Mais cette même expression peut être plus cool. Donc au fond, il est invité. Et il est invité, lui qui a déjà débattu dans la rue et sur l'agora, il est maintenant invité par les autorités civiles, si vous voulez, et juridiques, à s'exprimer de manière plus large devant ce public. On peut se poser des questions. Au verset 19, hein, on voit bien que c'est une invitation. Pourrions-nous savoir, hein, etc. Quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes ? Et il faut savoir qu'à l'époque, à Athènes, enfin en Grèce, on va dire de manière générale, il y a de nombreuses écoles philosophiques, de nombreux philosophes, de nombreux auteurs, poètes, dramaturges, etc. Et le débat, c'est le maître mot de la Grèce de l'époque. Donc tout un chacun qui arrivait d'un voyage avait des choses à raconter, des choses à entendre. Hein, on blaguait même à l'époque pour dire que si tu arrêtais un esclave qui est en train de bêcher un champ, que tu lui demandais ce qui s'est passé à Athènes, il était capable de te le dire dans le moindre détail. Donc, et c'est de l'époque, les blagues de l'époque. Donc ça veut dire que c'était très fréquent qu'on débatte de nouveaux sujets, de nouvelles idées, quelles qu'elles soient, y compris religieuses, et que c'était donc pas un problème pour les Grecs, hein, de faire cela. Donc nous devons bien comprendre que, dans un premier temps, l'aréopage n'est pas un lieu, c'est une assemblée. Donc ce n'est pas un tribunal bâti, si vous voulez, d'autant qu'à l'époque de Paul, l'aréopage se réunit sous ce qu'on appelait la stoa royale, c'est-à-dire un immense portique fait de colonnes ouvertes qui bordait l'agora, donc la grande place marchande et politique et commerciale, contenait ces portiques dans lesquels une partie des portiques était consacrée à cette assemblée. Vraisemblablement, encore une fois, un arc de cercle ou un truc dans ce goût-là, puisqu'on dit en grec que Paul se situe au milieu d'eux. Donc, si c'était des bancs, il serait difficilement au milieu. Si c'est plutôt un arc de cercle, on comprend qu'il puisse être là en train de défendre les idées de l'Évangile devant des intellectuels. Autre chose qu'il faut peut-être préciser sur l'aréopage, c'est que non seulement ce sont des hommes, mais on ne pouvait pas être membre de l'aréopage avant 60 ans. Donc il fallait avoir un certain âge, sous-entendu une certaine expérience, et il fallait aussi avoir occupé un ou des postes officiels très importants dans la politique de la Grèce de l'époque. Donc résultat, on peut dire que ceux qui sont là, c'est l'élite de la nation, si vous voulez, l'élite de l'Attique, de la région d'Athènes.
Et à l'époque, ils vivaient déjà si âgés ?
Apparemment, oui, ça ne devait pas être... Voilà. Je ne sais pas si c'est la, si c'est la raison de l'époque, mais enfin, on dit que les Grecs, les Méditerranéens, vivent longtemps, hein, grâce à leur régime, huile d'olive. Enfin bon, on ne peut pas faire la publicité, ni le tourisme. Voilà. Donc, c'est là donc qu'il est invité. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une curiosité, d'une saine curiosité, ou d'une volonté de contrôle? Ça, le texte ne nous le dit pas. Donc, était-ce pour polisser le discours de Paul, faire en sorte qu'il ne raconte pas n'importe quoi, ou est-ce que c'était vraiment par curiosité intellectuelle, voire spirituelle? Moi, je penche personnellement pour la première option. Je pense qu'ils étaient curieux, comme tous les Grecs de l'époque, d'une nouvelle doctrine et qu'ils voulaient en savoir plus. Et le texte poursuit en nous disant, alors nous, la top, c'est... En effet, tu nous rebats les oreilles, voilà, de propos étranges, et nous voudrions savoir ce qu'ils veulent dire. Alors, d'abord, cette phrase, elle nous démontre quand même très clairement, ce que j'avais déjà dit la fois passée, c'est que l'enseignement de Paul n'est pas réellement compris. Sinon, on ne dirait pas que les propos sont étranges et qu'on n'y comprend rien. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de lui dire. On n'a rien compris. Donc, ça démontre en tout cas... que le discours n'était pas franchement audible et que ça nécessitait une invitation, une sorte d'aparté, pour essayer de mieux comprendre ce que Paul était en train de raconter aux gens d'Athènes. Ça nous montre aussi que ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un procès. Donc il n'est pas invité à se défendre. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, la suite du discours de Paul montre bien qu'il n'est pas en train de se défendre. Il est en train d'exposer l'Évangile, tout simplement, à la sauce païenne, évidemment, pour que ça marche bien. Alors, les habitants d'Athènes, comme vous l'avez vu lors de notre dernière étude, c'est quand même une ville qui fourmille d'idoles. Et donc, Paul est invité à se défendre, enfin, à défendre l'Évangile, devant une foule plutôt acquise à l'idolâtrie, au paganisme, et on se demande bien comment il va y parvenir. Voilà. Et heureusement, le discours est là sous nos yeux, ce qui nous permet un petit peu de comprendre. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de chercher un petit peu les différents thèmes de ce discours.
Dieu créateur. De toutes choses, Seigneur de toutes choses.
Ok.
Donc, au début. Et après, je trouvais que c'était un peu plus compliqué de savoir exactement.
Vous allez voir, ça va être simple.
Ah.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées. Et encore ici, on a un condensé. Donc, ça rend peut-être les choses encore un peu plus difficiles parce que Luc a vraiment.
Il y a Dieu créateur. Du ciel et de la terre, il y a le Dieu qui donne la vie, il y a un petit peu une division dans la création, il y a la division en partie matérielle, la terre, la mer, les cieux, la nourriture, l'air, mais alors il y a la partie de la création de la race humaine.
Tout ça est tout à fait juste.
Oui, il y a l'idée que c'est un Dieu caché, un Dieu mystérieux, parce qu'il a voulu qu'il cherche, qu'il le cherche, en tâtonnant, Donc il donne déjà une idée que c'est un dieu qui n'est pas visible.
Tout ça reposant sur l'autel du dieu inconnu. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Il a quand même une idée de génie, là, quelque
oui,
part.
Oui, oui. De
servir d'une réalité grecque et athénienne.
Pour leur dire, voilà, je vais vous le faire connaître.
Moi, je... un peu mieux.
Est-ce que ça se peut que les Grecs avaient peur d'oublier un dieu parmi
oui,
tous les dieux
exactement.
Qu'ils adoraient
Donc, oui, mais pour une raison bien
est-ce
précise.
Est-ce qu'ils ont ressenti qu'il y aurait peut-être encore quelque chose au-dessus de... Je ne sais pas.
Donc, on a vu tout à l'heure que les Grecs étaient plutôt ouverts à cette époque-là, hein, à cette époque précise de l'histoire, plutôt ouvert à tout, toute idée politique, religieuse, etc. On débat de tout. Et la raison est assez simple. Il y a énormément d'étudiants étrangers à Athènes. Donc il y a des gens du monde entier, entre guillemets, qui viennent étudier là. Et donc chacun vient avec sa culture, son histoire, la manière de vivre, la manière de penser la politique. Et donc ça organise un certain nombre de débats. Et Paul se dit ben, comment je vais aborder la question de l'idolâtrie et comment présenter le fameux dieu inconnu. Alors comme je disais, ben oui, l'idée de génie c'est de rebondir sur la réalité. Et dans les versets 22 à 23 on a une espèce d'exorde, alors exorde, comment je pourrais traduire ça, une espèce de prolégomène, de prologue, de... Enfin, bon, bref.
Des mots plus simples.
Tu sais à qui tu t'adresses,
là. Une sorte... C'est parce que c'est pas une introduction. En fait, il profite de deux réalités bien athéniennes pour démarrer son discours. C'est un peu l'accroche, si vous voulez.
Ah oui,
ce qui va faire que les gens vont ouvrir les oreilles et essayer de suivre.
Et donc, on dirait qu'il commence un petit peu par une flatterie.
Oui et non.
C'est peut-être pas un bon mot.
Oui et non. Alors, je pense que la première chose, c'est la religiosité des Athéniens. Donc, même si lui, ça l'a un peu foutu en rote au début, comme on a vu la fois passée, l'idolâtrie, ça a commencé à lui peser franchement. Mais en même temps, il se dit, ben, si ces gens sont idolâtres, c'est qu'ils cherchent et qu'ils croient qu'il y a un dieu ou des dieux, etc. Donc, à la fois, on pourrait dire, oui, ça ressemble à une flatterie, vous êtes très religieux, etc. Ou trop religieux, dit-il, parce que je crois que le grec va plutôt dans ce sens. Et du coup, puisque vous êtes trop religieux, j'ai même vu, et c'est le deuxième point de l'exorde, qui est lié à une observation fine de ce qu'il a pu voir en visitant Athènes, c'est qu'il y a un autel, voire même plusieurs, parce qu'on pense qu'il y en avait plusieurs à Athènes, un autel dédié à un dieu inconnu, un dieu que vous ne connaissiez pas. Donc ça, c'est vraiment ce qui va entraîner la suite du discours. Et le verset 22 nous dit qu'il se met debout, donc il se tient droit, dit le texte grec, au milieu de l'aréopage, et il prend la parole, puisqu'il y avait été invité, en commençant par « Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes trop religieux ». C'est plutôt un compliment. C'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la moquerie. Parce que c'est un moment solennel, quand même. Il n'est pas devant n'importe quel conseil, et il le sait. L'aréopage, c'est l'élite. C'est l'élite même de la nation. En même temps, c'est une cour de justice, donc on ne va pas faire n'importe quoi. Et ce discours, je le trouve très habile, très construit, très éloquent, encore une fois, avec beaucoup de délicatesse aussi. Il essaye de ménager les Athéniens pour pouvoir aller plus loin dans la prédication de l'Évangile. Et au fond, il est en train de leur dire ben, « Vous êtes si religieux qu'il y a bien de la place pour un nouveau dieu. Voilà, parmi tous les dieux, ben, je vais vous en donner un qui les surpasse d'une certaine manière. » Et cette observation de Paul est tout à fait repérable dans les auteurs de l'époque, donc les auteurs anciens, qui soulignent tous la religiosité extrême des Athéniens. Sans doute parmi toutes les villes en Grèce, c'est celle dans laquelle il y a le plus de vécu idolâtre, on va dire ça comme ça. Et le verset 23 donc nous dit, ben voilà, moi j'ai observé, j'ai parcouru vos rues, je vois bien tous les monuments que vous avez, la moindre maison comporte un dieu, etc., honoré. Et j'ai vu donc qu'il y avait un dieu inconnu. Mais puisque vous ne le connaissez pas, ben, je vais vous en dire un petit mot. Donc c'est comme ça qu'il entre en matière. C'est un peu le point d'ancrage de sa stratégie d'évangélisation, à Athènes en particulier, parce que je ne dirais pas en milieu païen nécessairement, mais c'est quand même le milieu païen par excellence. Athènes, c'est le phare du paganisme à l'époque, dans tout le bassin méditerranéen. On peut se demander alors pourquoi ce type d'hôtel existait, c'était la question d'Elisabeth tout à l'heure, tout simplement parce que dans le passé avait sévi une longue période d'épidémie. Et on avait offert des sacrifices à tous les autels des dieux connus, et les dieux n'avaient pas apaisé leur courroux. Donc finalement, les Athéniens ont construit, bâti un autel à un dieu inconnu, offert des sacrifices, et l'épidémie s'est arrêtée. Depuis lors, on honore ce dieu inconnu à Athènes. Un dieu inconnu dont il ne savait rien.
Oui.
Ça, c'est fou quand on y pense, quand même. Alors, je me suis quand même questionné en préparant, en disant, mais finalement, est-ce que les Athéniens avaient touché quelque chose de vrai ? C'est-à-dire, oui, il y a bien un dieu caché, comme tu disais, pour reprendre une autre expression. Et sait-on jamais que ce dieu caché soit meilleur que tous les autres auxquels on a offert des sacrifices sans résultat, était-il dans la voie déjà d'entendre le discours de Paul ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si ça fait des années qu'ils vivent avec l'idée qu'il y a un Dieu inconnu, Paul n'avait franchement plus qu'à rebondir dessus, effectivement, et à leur annoncer le fameux Dieu inconnu. C'est une aubaine, je crois, pour Paul, dont le travail est facilité. Et finalement, l'apôtre nous offre la preuve qu'on peut annoncer la bonne nouvelle du Christ en milieu païen sans recourir aux textes juifs, c'est-à-dire sans s'appuyer sur la Bible, sur la Torah, pour être précis en ce qui concerne Paul. Il s'appuie donc sur la raison, sur l'observation, sur le contexte culturel. C'est assez fou quand on y pense, parce que nous, en tant que chrétiens, et notamment évangéliques, on aurait plutôt tendance à penser qu'il faut quand même peut-être citer un texte de la Bible, c'est pas mal, quoi, hein, pour prêcher à des païens. Mais là, apparemment, Paul, qui est pourtant un grand connaisseur de l'Écriture, fait un peu fi, mais nous verrons que c'est pas tout à fait vrai non plus. Et il fait le pari, donc, que tout homme est en réalité un enfant de Dieu, et qu'on peut donc s'adresser aux enfants de Dieu qui ne le savent pas, qui ne savent pas encore qu'ils sont enfants de Dieu, et que ça peut les toucher. Que Dieu, en tout cas, pourra faire ce travail de toucher le cœur du païen, même à Athènes. Alors, ce fameux discours, qui n'a pas encore tout à fait commencé, hein, ça c'est vraiment l'intro, c'est à partir du verset 24 que ça commence sérieusement, donc les versets 24 à 31. En fait, pour essayer de résumer ce qu'on cherchait tout à l'heure, le discours de Paul repose sur trois thèmes, je dirais même trois esquisses. Parce qu'il ne peut pas tout développer, c'est des païens. Il ne peut pas leur dire dans la Torah, dans tel texte, dans ci, dans là. Donc il est obligé de faire autrement. Et il divise son discours en trois parties. Une esquisse plutôt théologique, c'est-à-dire qui dit quelque chose sur le fameux Dieu inconnu. Une deuxième section du discours, donc ça c'est les versets 24 à 25, si vous voulez, dans lesquels il défend l'idée de Dieu, il dit qui est Dieu. Une esquisse anthropologique après, c'est-à-dire qui est l'homme. Et vous verrez pourquoi il le fait, dans les versets 26 à 29. Et enfin, il était en train de terminer la dernière partie qui était sur Jésus, justement, mais qu'il ne pourra pas achever. On y reviendra dans un moment. Ça, c'est les versets 30 et 31. Donc, on a en 1 sur Dieu, en 2 sur l'homme, en 3 sur le Christ, sur le rôle du Christ, le Christ Jésus. Donc, on va essayer de suivre cet ordre-là, en commençant par l'aspect présentation du Dieu inconnu. Et ça, c'est les versets 24-25. Il fait un résumé, en fait, de ce qu'il connaît de l'Écriture, sans citer l'Écriture, pour parler de ce Dieu inconnu. Et il commence par dire il s'agit tout simplement du Dieu qui a créé l'univers, c'est-à-dire du Dieu qui surpasse tous les autres dieux. S'il est vraiment le créateur de l'univers, c'est qu'à la limite, il est le créateur des autres dieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Disant cela, Paul rejoint en partie les philosophes de l'époque qui étaient en train à cette époque de s'orienter vers un Dieu unique et suprême, transcendant toutes les divinités. Donc les Grecs, les philosophes, les penseurs, étaient en train de se dire « Bon, on a une foison de Dieu, mais c'est qui finalement ?» Tu vois ? Qui est qui là-dedans ? Et donc pour faire simple, ils avaient envie de faire une refonte de toutes ces divinités pour dire non, il n'y a qu'un Dieu, un seul qui est un Dieu suprême. Et c'est là qu'on voit que Paul connaît bien la culture à laquelle il s'adresse. N'oubliez pas que Paul a étudié à Tarse, en Cilicie, c'est-à-dire dans une ville où il y avait des écoles de philosophie grecque, justement, et qu'il a aussi étudié, ça c'est le côté plutôt hébraïsant, avec Gamaliel. Donc c'est un grand intellectuel, il connaît énormément de choses. Et donc ça va lui servir, là, devant les Athéniens. Donc il rejoint en partie ces philosophes de l'époque, donc ça fait écho aux Athéniens à qui il est en train de parler. C'était un tel point, d'ailleurs, que les Juifs de la diaspora identifiaient parfois l'Éternel, le Dieu l'Éternel, au Dieu suprême des païens. Donc quand ils parlaient avec les païens, ils leur disaient « Mais nous, on sait qui est le Dieu suprême ». Donc c'était déjà en vogue. Et au fond, on pourrait dire que Paul n'invente pas. Paul repose sur ce qui existe déjà en filigrane dans la culture et dans les échanges entre juifs et grecs. Mais par contre, il va parler d'un Dieu créateur unique et personnel qui s'oppose frontalement à la visée des épicuriens qui, eux, voient bien un Dieu suprême mais qui vit toujours à part, rappelez-vous. Coupé des hommes qui n'ont aucune interférence avec les hommes. Lui, au contraire, il dit « Non, ce Dieu s'intéresse à nous ». Et il va le développer dans son discours. « Ce n'est pas comme vous, les épicuriens, votre Dieu suprême, centré sur lui-même, vivant pour lui-même, de manière un peu égoïste. » Et le fait qu'il soit créateur conteste aussi, dans la philosophie grecque, le fait que le monde serait le fruit du hasard ou d'un caprice des dieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il développe l'idée que tu avais soulignée tout à l'heure, l'expression « Seigneur du ciel et de la terre ». Qu'est-ce que ça désigne en réalité ? Ben, si il est Seigneur du ciel et de la terre, c'est donc le Dieu suprême, le maître absolu sur l'ensemble de la création, c'est-à-dire sur tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre. C'est une sorte de titre qui souligne bien la souveraineté de Dieu, la souveraineté absolue de Dieu, à qui rien n'échappe, tout dépend de lui et tout lui est subordonné. Donc il n'a pas peur d'annoncer clairement ce qui est le contenu finalement de la Torah, mais il le dit avec des mots grecs, si vous voulez, à la grecque. Et c'est vrai que dans la Torah, cette formule apparaît à plusieurs reprises comme une sorte de refrain. Seigneur du ciel et de la terre, on le trouve alors. J'ai quantifié quelques textes, mais il y en a beaucoup. Là, je pense que j'en ai une bonne dizaine, à commencer par la Genèse, Exode, Chronique, Néhémie, Psaume, Proverbe, Jérémie, Zacharie. Tous les livres de la Torah sont représentés, tous les courants de la Torah. Donc tous disent la même chose. Mais lui, évidemment, il ne le dit pas à son public païen qu'il puise dans la Torah pour leur dire cela. Et il affirme que Dieu est donc à l'origine de tout, qu'il maintient toute chose par sa volonté. Il est, comme dit le texte, la source et le soutien de toute vie, de toute réalité, qu'elle soit spirituelle, le ciel, ou matérielle, la terre, le visible. Et donc l'idée de ciel et de terre, ben, ça représente la totalité de la création, quelle qu'elle soit. Être seigneur du ciel et de la terre signifie donc que ce Dieu-là, entre guillemets celui des Juifs, est celui qui doit être connu comme étant le seul vrai Dieu, l'unique, l'étant ou l'éternel, qui se situe au-delà et au-dessus de toute autre puissance ou autorité. Donc, il fallait quand même un certain courage pour dire ça aux Athéniens. Rappelez-vous, Athènes, c'est plutôt le berceau de la démocratie, une idée en vaut une autre, chacun défend son idée, c'est celui qui la défend mieux qui gagne, etc. Là, il est en train de leur dire, vous avez tout faux. Tous vos dieux, c'est pas bon. Le seul existant, c'est lui, celui qu'on appelle Dieu. Il ne dit pas que c'est celui des Juifs, mais enfin, ils vont finir par le deviner, sans doute. Et au nom de cette suprématie de ce Dieu-là, il leur dit, ben voilà, vos temples, toutes vos idoles qu'on voit partout, le moindre bâtiment, le moindre temple, etc., tout ça, c'est des constructions d'hommes. Et il faut bien comprendre l'argument. C'est un thème très polémique dans l'Ancien Testament. Et Paul le reprend, ainsi que tous les prédicateurs chrétiens, quand ils s'adressent aux païens. Si le Dieu créateur de l'univers est Dieu, il n'a pas besoin de lieu saint. Il n'a pas besoin d'homme pour le servir. Or, le paganisme, c'est cela. Les hommes servent Dieu en permanence, puis ils en ont la trouille par-dessus le marché. Et cette affirmation paulinienne, elle s'oppose donc frontalement à toutes les formes d'idolâtrie, dont la principale est de vouloir mettre la main sur Dieu, le faire habiter dans une maison, et de le contrôler un petit peu, puisqu'en fait, c'est les prêtres qui font Dieu, en réalité. Peut-être même certains jouent à Dieu, d'ailleurs. Il se trouve que l'élite du paganisme rejoint quand même cette vision biblique. Et je vais citer deux exemples. On a les stoïciens, dont on a déjà pas mal parlé, qui croyaient que le Dieu suprême était omnipotent. Donc même si c'est un Dieu séparé des hommes, il était omnipotent. Et par conséquent, il ne pouvait pas, à leurs yeux, être localisé en un lieu, pas même dans un temple. Donc on sent que dans la Grèce antique, il y avait quand même un fameux débat, notamment entre stoïciens et épicuriens. Il y avait de l'opposition. Tout le monde n'était pas d'accord sur la place des dieux, y a-t-il un dieu ou des dieux, etc. C'était quand même le grand débat. Et donc Paul il fout un coup de pied dans la fourmilière en annonçant que tout ça, ça ne tient pas la route, et que finalement, il y a bien un seul dieu, mais qui est totalement différent de ce que les stoïciens pouvaient imaginer, par exemple. Et un autre philosophe important, c'est Euripide, qui lui a carrément déclaré, et je cite, « La forme divine ne peut être enclose dans l'enceinte d'un édifice, œuvre d'artisan. » On dirait presque mot pour mot ce que Paul a dit. Sauf que c'est Paul qui, sans doute, rebondit sur cet enseignement grec qu'il connaît pour leur dire, voyez, même chez vous, on le dit. Donc c'est pas que moi qui le dis. Et si Dieu est créateur, source, pourvoyeur de tout, il n'a besoin de rien, ni de personne pour le servir. Et cette idée, elle fait automatiquement écho chez les épicuriens pour qui l'homme ne peut rien apporter à l'être divin. Donc en cela, les épicuriens rejoignent aussi Paul. On n'a pas que les stoïciens qui s'y retrouvent, les épicuriens aussi. Et les stoïciens, eux, se reconnaissent dans l'affirmation qu'il est la source de toute vie et qu'il n'a donc aucun besoin. Voilà, pour ce verset. Donc ça nous remet dans le contexte d'Athènes un petit peu.
Et quelque part, ça me met en porte-à-faux quand même. Parce que les Juifs adorent à Jérusalem, dans le temple.
Oui.
Ils font des sacrifices à Dieu. Donc tout ce qu'il est en train de démontrer là...
Sauf que c'est un Dieu invisible. Ah, c'est la grande différence. Si tu veux, ils savent bien que Dieu n'habite pas le temple.
Oui.
Il peut être présent, mais il n'habite pas là. C'est pas son royaume, c'est pas son
domaine. C'est une notion qui est très claire dans l'Ancien Testament aussi.
Et qui est contestée par tous les prophètes. Hein. Chaque fois qu'Israël se perd en croyant avoir mis la main sur Dieu dans le temple, ils se font rabrouer par les prophètes ou démolir par les Assyriens, les Babyloniens. Ben ouais, chaque fois qu'ils sont dans l'errance au niveau religieux, ça pète.
Ils connaissent la réaction de Dieu qui a dit à notamment David, mais aussi à son fils, Salomon, je ne vous ai pas demandé de construire une maison. Je n'ai jamais habité une maison. Je n'ai pas besoin d'habiter une maison. Et le message de Dieu était très clair. La tour de Babel, ils la connaissent aussi. Ils savent très bien qu'elle a été démolie et il y a eu séparation, division, parce que l'homme voulait encore s'accaparer Dieu. Et donc c'est une notion qui, même dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, malgré que le temple, c'était quelque chose, ils savent très bien que Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme.
Depuis le début.
Et les serviteurs du temple servent Dieu, mais pour l'homme, pas pour Dieu.
Exactement, comme une sorte d'intermédiaire.
Ils n'apportent pas quelque chose à Dieu. Il apporte quelque chose aux hommes.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà étudié un peu le système des sacrifices dans l'Ancien Testament. Dans les temples païens, quand on offrait quelque chose, c'était pour les dieux. Même si on sait après coup que c'est les prêtres qui bouffaient la viande, etc. ou qui la revendaient sur le marché. Bon, ok. Mais on faisait semblant, en tout cas, que Dieu appréciait le poulet rôti, les frites, enfin bon. Tandis qu'au temple à Jérusalem, tout le monde sait que la règle, c'est que les prêtres ont le devoir, parce que c'est leur seule source. Et eux, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de quoi faire de l'agriculture, donc c'est leur seule source pour vivre. Donc ça fait partie du culte. Par contre, ce qui est offert à Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est plutôt les parfums, donc les odeurs qui montent vers le ciel, qui représentent les prières du peuple, conduites par les prêtres, etc. Et encore une fois, si on parle de la fumée de l'encens ou même de l'autel, hein, des sacrifices, ce n'est jamais que du vent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste aussi caché. Il n'y a rien de visible. Dieu n'emporte pas le gigot. Hein, voilà, il se contente du parfum, des sacrifices qui sont offerts. Mais par contre, Dieu donne le pardon. Donc chaque sacrifice entraîne le pardon. Ça veut dire qu'un juif n'a pas peur de Dieu. S'il va offrir un sacrifice, ce n'est pas parce qu'il a la trouille, c'est parce qu'il sait qu'il doit le faire, reconnaître son péché et accepter le pardon divin. Tandis que dans le monde du paganisme, on ne sait pas, c'est un peu Inch'Allah comme dans l'islam, on ne sait pas si Dieu est réellement bon, on ne sait pas s'il va nous pardonner, on ne sait pas s'il va nous bénir, etc. On l'espère. Mais on n'en sait rien. C'est quand même très, très différent. Il y a beaucoup de différences entre les formes de culte. Et comme tu l'as dit, Bernard, il faut bien concevoir, et je pense que beaucoup de Juifs en ont conscience, le temple, c'était une erreur monumentale. C'est l'erreur d'un homme. Dieu a accepté l'erreur. Il l'a récupérée, si vous voulez. Mais en même temps, il a émis des règles qui fassent que c'était toujours critiquable. Le temple n'est là que pour les sacrifices et pour que le peuple soit pardonné. Mais sinon...
C'est un peu ambigu, hein, parce que très souvent, Dieu a dit « Vous irez adorer dans le lieu que je vous ai... que je veux, que j'ai choisi. » Donc, Dieu n'a pas besoin d'une maison et il n'habite pas une maison. D'ailleurs, c'est une erreur que de croire que Dieu habite dans une maison. Et parfois, ça tourne dans nos têtes. Nos cantiques le disent aussi. Mais Dieu a voulu quand même qu'il y ait un lieu où on pouvait avoir une certaine relation, un certain contact. Et Dieu a accepté, comme tu l'as dit, il a accepté que Salomon construise un temple. C'est vraiment intéressant.
Il fait avec, en tout cas. Et en même temps, ce qui est aussi intéressant, c'est que le temple... Bon, je n'ai pas le temps de faire la démonstration ce soir, hein, pas en 5 minutes, en tout cas. Le culte au temple, tous les rituels du temple disent quelque chose de ce que sera le Christ.
Ouais.
Donc Dieu a récupéré la mauvaise idée pour en faire quelque chose qui tape sur le clou, c'est le cas de le dire, et qui va aider, en tout cas un certain nombre de Juifs, à accepter le Christ, je pense à la Pentecôte, etc., évidemment, ce qu'on a vu au début des Actes, mais aussi au travers de l'histoire. Et aujourd'hui, plus que jamais, pour ce qui est des juifs messianiques, par exemple. Voilà. Je pense que j'ai lu il y a quelques années une étude d'un rabbin messianique sur le propitiatoire et ce que les grands prêtres devaient faire dans le lieu saint, le lieu très saint. Et une des choses qu'ils faisaient, c'était de marquer l'autel avec du sang, en forme de croix, tout le long de l'autel. Quand même, ça fait réfléchir, l'air de rien. Un peu comme sur les linteaux des portes en Égypte, quoi. La marque du sang, comme salvateur, d'une certaine manière, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, fermons la parenthèse, parce qu'on n'a pas fait la démonstration ici. Oui, buvez, tant qu'il y a de quoi. Je ne promets pas le miracle de la... C'est du champagne du jardin.
Juste, si je peux rajouter quelque chose. Deux versets qui m'ont vraiment frappé dernièrement. Qu'est-ce que Jésus a répondu aux disciples qui lui ont fait remarquer les pierres du temple ? Il n'y a pierre sur pierre qui ne résistera. Rien ne tiendra. Et en ce temps, le temple démoli. Par contre, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre quand il a dit « Tu es le Christ ?» Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est de nouveau ambigu et en même temps c'est tellement clair. Le temple de Jérusalem qui était si important pour les Juifs va être détruit et ne sera jamais reconstruit jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui demeure pour l'éternité ? Que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point, c'est le salut en Jésus-Christ, la déclaration de Pierre sur Christ tu es le Sauveur. Ça remet toutes les choses en place. Hein. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà, je voulais vous le partager.
Très bien. Un dernier mot sur cette partie, l'esquisse théologique de Paul. Alors, on suppose que ça a dû prendre un petit peu plus de développement, bien entendu, mais il termine cette partie-là en disant que c'est lui, sous-entendu Dieu, qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. J'ai presque envie de dire, oui, c'est Dieu qui donne la vie, puis qui la reprend en son temps, quand il veut, quand il le juge nécessaire. C'est lui qui a donné le souffle, ça c'est un texte qu'on trouve dans la Genèse déjà, Genèse 2, verset 7. Et quand Paul dit cela à des Grecs, il est en train de leur dire que la vie humaine, c'est d'abord un don gratuit. Alors, il faut savoir que les Athéniens se croyaient sortis de la course à Jupiter. Non, je rigole, mais bon, ils étaient quand même assez imbus de leur connaissance, de leur savoir, de leur philosophie, de leur vie. Mais surtout, ils pensaient qu'ils étaient le peuple. Qu'à côté de ça, tout le reste, c'était de la gnognotte, quoi. Il y a les Grecs et puis il y a les autres, quoi, en gros. Donc il est un peu en train de leur faire une petite leçon de morale en leur disant, écoutez les amis, s'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est lui qui a tout donné, y compris la vie aux hommes, ça veut dire que la vie est gratuite, elle est dispensée par Dieu et qu'on doit être émerveillé que cette vie nous soit donnée. Et il faut savoir, mais je le redirai peut-être tout à l'heure, que dans la pensée des Athéniens, eux pensaient qu'ils étaient issus du sol d'Athènes. Hein, comme ça, ils avaient émergé du sol, et que c'était pour ça qu'ils étaient le seul vrai peuple. Un peuple solide, etc. etc. Et donc, ils n'ont aucune notion de ce qu'ils doivent à Dieu. Pour eux, c'est le nombril du monde. Ils sont le nombril du monde. Et là, Paul est en train de leur dire, mais vous devriez être émerveillés d'être en vie. La vie, c'est un don gratuit, ce n'est pas un dû, ce n'est pas une chose normale, c'est une chose pour laquelle vous devez faire amende honorable au Dieu inconnu, hein, quelque chose comme ça. Et puis après, dans les versets 26 à 29, il se lance alors plutôt dans une démonstration sur qui est l'homme, et ça a son importance. Il leur dit, ben voilà, à partir d'un seul homme, alors on a tous deviné, nous, de qui il s'agit. Lui, il ne le dit pas. Il ne dit pas qu'il s'agit d'Adam. Il ne dit pas qu'il s'agit de Noé. Parce qu'en fait, on voit bien dans la Genèse que Noé est le père de tous les peuples. Hein. C'est à partir de lui que tout se divise, si vous voulez. Donc si on remonte comme ça, on dirait Noé, Adam, et puis au-dessus d'Adam, ben, quand même le père, hein, par excellence. Donc à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour habiter sur toute la surface de la terre. Donc cette fameuse race surgit spontanément du sol attique, se prend une petite claquette, et se dit « Ah bon, c'est comme ça dans votre doctrine, on est finalement tous au même diapason », et il va enfoncer le clou. L'argument de Paul, finalement, il porte principalement sur une chose, là. Il est en train de leur dire « Tous les hommes sont frères. Il n'y a pas de surhomme. Il n'y a pas des hommes meilleurs que d'autres. Il n'y a pas des hommes et des esclaves. Il y a des hommes, quel que soit leur statut dans la société. » Et même, on pourrait presque dire, et ça devient lucanien ce que je vais dire, qu'il y a des hommes et des sœurs, des frères et des sœurs, pas que des hommes, justement. Et au fond, c'est comme s'il leur disait ben, « Nul ne peut revendiquer un statut à part. Nul ne peut revendiquer valoir plus qu'un autre, par exemple. Tous les êtres humains sont égaux, car issus du même homme ou du même Dieu. » Puisque lui, il sait, il a son background juif. Et il leur dit ben, « Ce Dieu-là, qui a fait l'homme, il a fixé des temps. » Alors, on pense que c'est en lien avec le chapitre 14, verset 17. Il s'agirait plutôt des saisons, des récoltes, de la, on pourrait le dire autrement, de la bienveillance de Dieu qui fait pleuvoir, qui fait que les récoltes sont adéquates, etc. Et il ne fait donc pas tant allusion à l'histoire. Certains commentateurs pensent qu'il s'agit de l'histoire des hommes, mais non, c'est plutôt de ce qui se déroule dans la vie des hommes qui est souligné. Et puis il leur dit, ben, c'est aussi lui qui a fixé les limites de l'habitat des hommes. C'est lui qui a dit, toi tu vas vivre là-bas, toi tu vas vivre là, ça c'est la frontière, le fleuve qui est là, etc. Bon, admettons. C'est une idée sans doute tirée de Deutéronome, au chapitre 32, au verset 8, où Dieu, effectivement, distribue des territoires et fixe des frontières. Alors, la fameuse diversité des peuples, leur localisation différente sur la terre, les différences ethniques et linguistiques, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Mais c'est aussi l'expression de l'acte créateur. C'est-à-dire, c'est comme si Paul leur expliquait, ben voilà, dans ma doctrine, on croit que Dieu a séparé les choses, le jour et la nuit, les mâles et les femelles, etc. Eh bien, il en est de même pour les peuples, il les a séparés, non pas divisés, mais séparés, de manière à ce que tous se reconnaissent comme humains. Que tous reconnaissent que l'autre est un humain, que ce n'est pas un grand groupe comme à Babel où tout se confond, où tout le monde parle la même langue et ça devient le bazar finalement, puis on décide d'éradiquer Dieu. Mais du coup, cette diversité dans l'esprit de l'enseignement de Paul, ça ne gomme pas la réalité de l'unité de l'humanité. Bien au contraire, ça la soutient. Et au fond, il leur dit, mais voilà, cette diversité, elle vous rend dépendant d'un seul. Et c'est le Père, alors soit Noé, Adam, par exemple, pour la tradition juive, soit Dieu, si on va encore plus loin, c'est à lui qu'on doit cette diversité, et c'est à lui qu'on doit finalement la vie. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le discours bascule tout d'un coup, parce qu'à partir de ces réalités qu'il vient de décrire, la création de la terre, le ciel de la terre, la création de l'homme, la diversité, si vous voulez, ou la diversification, peu importe, c'était, dit-il, pour que les hommes cherchent Dieu. Tout ça dans le but que, pour le dire autrement, et ça on connaît, je crois, c'est de dire que dans l'acte créateur, Dieu se fait connaître. Dans la beauté de la création, il se révèle. Il dit qui il est. Mais c'est aux hommes à le découvrir. Et donc l'idée de chercher Dieu vient de cela. Il dit c'est pour qu'ils cherchent Dieu. Tout ce que Dieu a fait démontre la bienveillance de Dieu à l'égard de l'homme. Tout homme est donc appelé, d'une certaine manière, à chercher Dieu. Et le but, c'est quoi ? Ben, c'est de le remercier. Ou pour le dire dans un langage cultuel, pour rendre grâce, pour glorifier Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Pour tout ça, justement. Pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est. Et c'est la raison pour laquelle il insiste dans le passage en disant « Mais Dieu est en effet toujours à notre portée. Il n'est pas loin, Dieu. Il est là. Il est en vous. Il est partout dans cet univers. » Et même les païens pourraient le découvrir sans la prédication. Donc, sans la prédication de la Torah ou de l'Évangile, les païens peuvent découvrir Dieu. Et dans l'histoire, on sait que c'est arrivé quelquefois que des païens se tournent vers Dieu, soient foudroyés par un... Je pense à des personnes athées. Vous savez qu'un des plus récents, c'est Eric Emmanuel Schmitt, par exemple. Comment peut-on passer de l'athéisme bien ancré à une expérience mystique en plein désert et finalement se dire ben, « c'est plutôt la foi chrétienne que je vais embrasser maintenant ». C'est quand même assez un fou quand on y pense, quoi. Bon, je reviens mais à mon texte ici. Et il continue donc son discours avec les versets 28-29 en disant « Mais voilà, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Et là, il va s'appuyer sur des auteurs grecs. Alors, on suppose qu'il l'a détaillé dans son discours et que Luc fait un résumé. Mais ce que je viens de citer, justement, c'est la déclaration d'auteurs grecs. De même que « car nous sommes de sa race », c'est aussi une citation. Alors, pour la première partie, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il s'agit d'une citation du poète Épiménide, ce qui démontre une fois de plus la grande culture de l'apôtre Paul. Et ça doit flatter quand même les oreilles des Athéniens. Ah, voilà un juif qui connaît notre culture, notre texte, nos poètes, nos philosophes. Et il y va d'une deuxième, « car nous sommes de sa race », qui est une nouvelle citation d'un stoïcien. Elle est tirée des phénomènes, un livre qui s'appelle « Les phénomènes d'Aratus » ou d'Aratos, peu importe, qui était un copain de Cilicie, donc il a dû l'étudier à Tars, nécessairement. Paul souligne ainsi que c'est du Dieu inconnu que nous tirons tous notre origine, qui est donc une origine commune. Sans doute fait-il référence au concept biblique d'image de Dieu, l'homme image de Dieu, donc il remonte à une seule origine qui finalement se situe en Dieu. Et il leur démontre enfin que si l'être humain est de la race de Dieu, puisque c'est leur poète qui le dit, comment peut-il alors, cet humain, vénérer des statues qui représenteraient le Dieu unique ? Là, c'est une deuxième torgnole sur l'idolâtrie. Quelque part, il enfonce le clou. Il leur dit, mais finalement, c'est quoi vos idoles ? Ben, ce sont des œuvres d'art, des objets. Même s'ils sont précieux, ça reste des objets façonnés par l'homme, dit-il, à l'image de l'homme. Donc au fond, vos idoles, c'est le pur produit de la pensée de l'homme ou de l'acte créateur de l'homme. Et il leur dit ça ne va pas. Parce que finalement, la dignité originelle, si vous voulez, de l'homme, ça vaut bien plus que des idoles. On ne peut pas s'abaisser au monde des idoles quand on sait d'où l'on vient. Et si je vous annonce le Dieu inconnu, je vous annonce d'où vous venez et vous devez revoir votre copie. Vous ne pouvez pas continuer à offrir des sacrifices à des guignols. Et pourquoi dit-il cela ? Parce qu'il leur dit finalement, ben, si vous avez faux et que nous avons raison, c'est donc que l'homme qui est image de Dieu est lui-même l'image de Dieu dans l'univers. Il n'y a pas besoin de façonner des idoles. Vous êtes à la limite le produit, justement, la représentation de Dieu dans ce que vous êtes en tant qu'homme. C'est quand même fort comme argumentation. Le vrai Dieu n'a pas besoin de ses idoles matérielles pour exister au monde. L'être humain lui suffit. Le chef-d'œuvre, la création de l'homme, mâle et femelle, c'est la manière dont Dieu se fait voir ou se fait représenter dans le monde. On est, au fond, les enfants de Dieu dès le départ, même si nous n'en avions pas conscience. J'ai presque envie de dire « l'être humain lui suffit, pas besoin d'idole ». Dès lors, s'incliner devant une idole, c'est nier son origine, c'est nier son humanité, sous-entendu à l'image de Dieu, c'est nier sa dignité. Et là, il enfonce vraiment le clou très très fort. Jusque-là, vous observerez que les Athéniens écoutent sagement, gentiment, rien ne les dérange dans ce qu'il est en train de dire. Il propose donc aux Athéniens une démarche totalement contraire à celle de leur croyance païenne. C'est une révolution. Et jusque-là, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, maintenant, je ne sais pas si on a assez de temps pour aller plus loin, parce qu'il est déjà 43. Après, il y a quand même une dernière esquisse inachevée. Hein. Donc, c'est-à-dire que cette esquisse, elle débute par une transition. Il était seulement en train de commencer cette troisième partie. Et cette transition, il l'a focalisée sur le paganisme, en parlant de l'ignorance, hein, justement, des Athéniens. Mais il ne va pas pouvoir aller très très loin dans ce qu'il voulait faire. Et ce qu'il faut imaginer... Ah, c'est pas mal, ça. C'est que Paul était en train de commencer la présentation du troisième volet sur le rôle du Christ dans l'univers. Sous-entendu, le Dieu inconnu, c'est pas simplement celui qui est caché, mais c'est celui qui est venu, et qui est venu pour une mission bien précise parmi les hommes. Mais il va pas pouvoir développer cela, parce que cette partie du discours de Paul sera interrompue au verset 32, privant ainsi les auditeurs de précieuses données sur l'homme Jésus, sur son rôle dans l'univers. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique la maigre moisson de ce jour-là, devant l'aréopage. On ne peut pas dire que ce fut un franc succès en termes de résultats d'évangélisation.
Hein ? Quelques-uns.
Oui, oui, mais enfin, on verra que ce n'est pas rien non plus. Mais donc je disais, et on va s'en tenir là peut-être pour ce soir, l'esquisse, elle débute par une sorte de dernier coup de pinceau dans le tableau qu'il a déjà dressé sur le rôle des idoles, le paganisme en général. Et ici, il essaye d'assimiler le paganisme à une ignorance de la vérité. Le paganisme, le fruit de l'ignorance de qui est le vrai Dieu. Si on savait qui était le vrai Dieu, on ne se serait pas adonné à des idoles, à des cultes malheureusement putassiers, il faut le dire, hein, tout simplement, ou orgiastiques, qui est loin d'être moral, entre guillemets. Donc, au fond... Il leur dit, ben voilà, désolé de devoir vous le dire, mais le paganisme, il a un rôle qui n'est pas très positif. Et moi, je vous dis que vous allez devoir passer par la repentance si vous voulez adorer le vrai Dieu. Donc le Dieu inconnu que je vous présente, si vous voulez vous tourner vers lui, ben, il y a quand même quelque chose à entreprendre qui va être de l'ordre de la repentance. Donc quand il dit, par exemple, que... Dieu annonce maintenant aux hommes que tous les hommes, l'humanité, et partout, dans toute la planète, ont à se convertir. C'est très fort. Mais surtout pour dire ça à des Athéniens. Vous voyez, la notion de conversion, ça commence déjà un petit peu à être difficile. L'idée qu'il faut changer complètement de mode de vie, car c'est culturel, l'idolâtrie. Il faut tout abandonner pour vivre autre chose, alors qu'on n'y est pas spécialement préparé. Et c'est pour ça que je dis peut-être que cette prédication inachevée explique le désastre un petit peu de l'évangélisation de Paul devant ce cercle un peu privé. Voilà. Donc on essaiera d'aller plus loin la prochaine fois et aussi d'essayer de trouver quelques applications. J'en ai trouvé quelques-unes, mais bon, c'est vrai qu'il faut bien réfléchir. Comment on va développer ces applications pour les trois esquisses et peut-être même essayer d'imaginer quelle aurait pu être la suite du discours de Paul s'il avait eu le temps d'achever son discours sur Jésus, qu'aurait-il développé comme argument qui ne soit pas strictement juif, vous voyez ce que je veux dire, qui soit de nouveau adapté aux Athéniens ou au monde grec dans lequel il évolue. Voilà, on essaiera d'y réfléchir. Je pense que vous avez tous la réponse aux dernières questions du texte. Quelle était la pierre d'achoppement ? C'est justement ça qui se trouve dans ce dernier passage. C'était quoi alors la réponse ? Bah oui. Et donc vous observerez quand même que rien n'a changé sous le soleil. C'est toujours ce thème-là qui divise. Jusque-là, tout allait bien, mais dès que tu vas aborder le cœur de la prédication de l'Évangile, qui est « il y a un homme qui est ressuscité », surtout chez les Grecs, au niveau de la raison, ça passe mal. Et on peut comprendre que dans toutes les cultures, dans tous les temps, tous les milieux, dès qu'on touche le cœur de la prédication de l'Évangile, là, l'homme cale. Et c'est dommage. Parce que c'est ça qui délivre, justement. Ok, la suite au prochain numéro.